Merci d'être là. Nous sommes heureux d'accueillir Anne-Sophie Saint-Père pour la présentation de son enquête « Police partout, justice nulle part » point d'interrogation, qui traite donc des différentes enquêtes ou non-enquêtes de victimes de violences policières en France sur les 20 dernières années.
Ouais, je remonte même, notamment pour parler de la question des peines, aux années 70-80, parce que ça prend tellement de temps qu'en fait, il faut remonter loin dans l'histoire pour avoir une série d'exemples.
Dans un premier temps, on voulait parler du titre « Police partout, justice nulle part ». Quand on l'a vu, on s'est dit que c'était presque un peu racoleur. Enfin, c'est un titre, en tout cas, qui interroge. Avant donc, de poser à Anne-Sophie la question, mais je suis allée du coup sur Internet, comme tout le monde, sur Google, comme tout le monde, et pour apprendre qu'en fait c'est une expression qui est issue d'un discours de Victor Hugo devant l'Assemblée en 1851 par rapport à la répression des mouvements ouvriers en France à cette époque, et ça a été repris par dans les années 2000 par des groupes de militants pour justement protester contre la répression. Donc merci d'avoir repris ce titre et de le repositionner. Et je voulais te poser la question de savoir comment ça s'était passé avec l'éditeur pour le choix du titre, puisque j'en parlais à Anne-Sophie, nous, quand on a communiqué autour de cette soirée, on a eu des réactions très différentes, avec souvent la perception de ce qu'était ce livre comme manifeste d'extrême gauche, etc., ce qui n'est pas du tout.
Oui, alors ça a été un choix, je me rappelle très bien, parce que ce titre, enfin cette phrase « Police partout, justice nulle part » avec un point d'interrogation, c'était le titre du premier chapitre à l'origine, où je pose la question de « est-ce qu'il y a une impunité pour les violences policières ? Est-ce que c'est vraiment le cas ?» Donc, je vous dévoile pas tout le contenu, mais je donne quelques exemples, et en fait on peut vraiment se poser la question de est-ce que comment il y a quelle est la quantité de violences policières, de jugements, voilà. Et quand mon éditeur a reçu le chapitre, bon, il m'a fait quelques retours sur le chapitre, mais surtout il m'a dit mais ça c'est le titre du livre, donc voilà, c'est comme ça que ça a été choisi. C'est vrai que j'avais complètement anticipé le fait que ça allait être pris comme un slogan anti-flic et clivant. Moi ça me posait problème parce qu'en fait une des grosses difficultés par rapport aux violences policières, c'est qu'il y a une telle polarisation qui est entretenue et qui est réellement entretenue notamment côté syndicat policier au ministère de l'Intérieur, que ça empêche toute discussion et toute amélioration de la situation. Voilà, bon, par ailleurs mon éditeur m'a dit mais si, ça sera beaucoup plus c'est beaucoup mieux que quelque chose un peu qui va attirer l'attention, et donc finalement le compromis a été de garder ce point d'interrogation, d'une part parce que moi en plus je trouve que c'est bien aussi de poser des questions dans les livres et pas arriver avec des conclusions toutes faites, donc j'avais l'impression que j'ouvrais le débat et que je donnais des éléments pour se faire une idée, et puis parce que en fait, ce slogan il est très intéressant, mais sur le côté justice nulle part, en fait, mon livre n'est que sur la justice. Et en fait, c'est aussi ce que je voulais montrer dans le livre, c'est que les victimes de violences policières, elles sont confrontées à un acte violent, et là, on le voit de plus en plus parce que c'est de plus en plus filmé, donc ce sont des situations qui sont rendues publiques, ça circule, il y a eu beaucoup, ça s'est beaucoup développé dans les manifestations ces dernières années, donc il y a une prise de conscience de ça, mais qu'en revanche, après les victimes entraient dans un autre combat qui était beaucoup plus invisible, qui était celui de la confrontation à l'institution judiciaire quand elles portaient plainte, parce qu'il y a aussi beaucoup de cas que la justice ne voit jamais passer, et qu'en fait non, la justice n'est pas nulle part, la justice est partout, mais qu'elle était aussi pleine de ces biais, conflits d'intérêts, liens avec l'institution policière, et c'est une grande difficulté pour les victimes de violences policières, parce que c'est un combat qui dure des années, qui est semé d'embûches et d'obstacles, avec notamment un enjeu énorme qui est de se faire reconnaître comme une victime et pas comme coupable, donc ce sont des éléments que je développe. Donc pour moi, problématique, et pas forcément que la justice est nulle part, même si encore une fois une grande partie des violences policières est ignorée de la justice, et j'en parle dans tout un chapitre, mais même quand elle est saisie, elle est partout, mais problématique à plein d'égards.
Tu peux nous donner aussi un peu la genèse de la façon dont tu es venue à ce travail? Est-ce que c'était via ton précédent poste Amnesty? Ce que donc pour l'avoir lu en préparant pour aujourd'hui, c'est quand même aussi un livre qui rappelle, enfin qui génère beaucoup de colère. Parce que je suis très en colère depuis hier. Enfin, j'ai commencé à le lire avant, mais ce que j'ai lu hier était particulièrement moteur de colère, parce que c'est terrible. J'en faisais part à Anne-Sophie quand elle est arrivée. Et du coup, est-ce que tu peux rappeler le pourquoi du comment de ta démarche,
ouais,
de
alors,
cette enquête?
En fait, moi, j'ai été chargée de plaidoyer pour Amnesty International pendant plusieurs années et je travaillais sur le droit de manifester et les violences policières. Parce que ça rentre dans le cadre du droit international relatif aux droits humains. Les policiers sont des représentants de l'État. Donc, en fait, leurs actions, ce sont des actions portées par l'État. Et les violences policières, ça peut s'apparenter à des traitements inhumains ou dégradants ou à des atteintes au droit à la vie dans le pire des cas. Donc, j'étais amenée à traiter de ce sujet. Et je travaillais pas mal sur, enfin, sur l'analyse de pourquoi un usage de la force était légitime ou non. Donc, sur les questions de force nécessaire, légitime, proportionnée. Je faisais beaucoup de conférences, de débats sur des images de violences policières et à chaque fois, y avait toujours quelqu'un qui venait me poser la question de « mais qu'est-ce qui se passe pour le policier après ou pour le gendarme ? Quelle est la responsabilité ?» Et à la fois dans les cas individuels que je suivais, j'avais pratiquement pas de cas où il y avait eu des procès ou des condamnations. Et par ailleurs, en fait, il y avait pratiquement pas de cas dans tout l'historique que je connaissais. Enfin, c'est l'objet du premier chapitre de faire une analyse. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de données. Le ministère de la Justice ne nous a pas fourni, quand j'étais à Amnesty, de chiffres sur le nombre de plaintes et le nombre de condamnations. De la même manière que le ministère de l'Intérieur reste très obscur sur la mesure des violences policières. Donc c'est un problème qu'on ne veut pas mesurer, donc qu'on ne veut pas avoir au niveau institutionnel. Mais globalement, il y a un faisceau d'indices qui montre qu'il y a très peu de condamnations, beaucoup de classements sans suite. Et donc ça ouvrait tout un autre débat de pourquoi il y a aussi peu de justice pour les violences policières. Et généralement j'avais pas le temps de raconter tout parce que c'est très long, parce que en fait il y a des raisons qui sont multiples, à la fois inhérentes au fonctionnement de la justice en général, mais ensuite il y a des spécificités sur la question des violences policières, de la manière dont l'État utilise la police, de l'absence de politique pénale, et donc en fait j'ai voulu raconter tout ça dans un livre tranquillement. Et par ailleurs j'avais aussi un peu envie d'un... Je ne me suis pas attachée à suivre un cas en particulier, parce que c'est souvent comme ça que sont traitées les violences policières. On va suivre le cas de Zineb Redouane ou de Michel Zecler. Enfin, d'une part, c'est souvent des cas qui ont été très médiatisés. Et en fait, je voulais utiliser la multiplicité des dossiers dans différents contextes pour montrer qu'il y avait des ressorts qui étaient communs à tous les dossiers. Parce qu'à chaque, quand on prend un cas individuel, on va dire « Ah bah oui, mais à tel moment, il s'est passé ça. » Ou « Oui, mais vraiment, cette autopsie, elle était compliquée. » Et en fait, si on amasse plusieurs dizaines de cas, on se rend compte que les obstacles se reproduisent. Donc en fait, il y a un enjeu systémique et que c'est pas sur un cas individuel.
Ouais, mais c'est ce que le livre montre très bien. Parce qu'Anne-Sophie a choisi du coup un parcours qui est quasi, enfin à la fois chronologique et thématique, où on part de la difficulté pour la victime à porter plainte, de ce que c'est que l'enquête. Tu fais aussi un gros boulot de vulgarisation. Enfin, pour moi qui n'y connais rien, en tout cas, un gros boulot de vulgarisation sur l'organisation de la justice en France. Et c'est très clair, et effectivement, tu utilises tous les cas particuliers qui sont des exemples qui, du coup, nous permettent encore mieux de comprendre le process. Donc, il y a cette approche linéaire, et puis tu le doubles aussi d'une approche sur, d'une part, la question des victimes, leurs problématiques face à la justice, et d'autre part aussi la pression policière, puisque... et c'est en ça que le problème est systémique, c'est qu'il est compliqué pour un individu d'aller porter plainte auprès de la police pour être contre d'autres policiers. Il y avait quelques chiffres qui sont donnés dans le premier chapitre et qui sont assez aussi révélateurs dans ce que tu viens d'évoquer. Enfin, là, c'est des chiffres qui sont issus d'une étude du magazine en ligne Basta, qui a porté sur une enquête où ils ont enquêté sur 200, enfin, ils ont pris 213 affaires de décès causées par la police en France, et 67% n'ont donné lieu à aucun procès. Donc les quelques pourcentages restants ayant donné lieu à des procès, pas forcément avec condamnation. Donc c'est vrai que c'est assez ébouriffant. Et un autre aspect que tu abordes et dans d'autres de tes écrits, c'est aussi la différence, ça aussi c'est une thématique qui est transversale dans son livre, la différence entre la France et d'autres pays européens. Tu fais régulièrement la comparaison et de manière très précautionneuse en disant bien qu'on ne peut pas comparer avec d'autres pays ailleurs dans le monde, mais là aussi dans les chiffres que tu donnes au début, tu évoques une moyenne de 16,3 décès causés par la police en France entre 2008 et 2018, donc en moyenne sur ces 10 années, et en Allemagne c'est 9,8. Et là aussi tu reviens régulièrement sur...
Alors que la population allemande est plus importante aussi.
Oui.
Et par ailleurs, sur ce chiffre de 16,8 décès par an par la police française, maintenant il est vieux parce que ces dernières années, on est monté à 40, voire 50 décès par an. Enfin, il y a eu une vraie augmentation. Alors, ça recommence à baisser, mais on est sur des chiffres qui sont extrêmement élevés par rapport à des pays européens comparables. Mmh. On n'est pas au niveau des États-Unis où on est à 1000 décès par an, hein, mais ça reste une anomalie dans le nord de l'Ouest.
Ce qui est frappant aussi, c'est qu'à travers donc, toutes ces étapes, depuis le fait de porter plainte ou même jusqu'au procès, on a cette thématique de dénigrement de la victime qui revient. Et je te demanderai de bien vouloir en parler après. Mais je voulais vous donner l'exemple, un des exemples qui a été les plus marquants et dont on a tous entendu parler et qu'on avait pu oublier, c'est l'histoire de la militante Geneviève Leguet, blessée pendant une manifestation, et dont tu cites que la... Donc elle, je vais lire, ce sera plus simple. Même dans les... Ah oui, parce que tu parles de l'acharnement contre les victimes, et tu termines en disant « Même dans les cas où on ne trouve aucun délit à reprocher à la victime, la machine de communication des autorités et syndicats policiers va chercher à la décrédibiliser. En semant le doute sur la responsabilité des forces de l'ordre et en suggérant que la victime en aurait une. » Parmi les exemples très médiatisés, on peut penser aux déclarations du procureur de Nice qui affirmait que Geneviève Leguet, militante d'attaque blessée pendant une manifestation, n'avait pas été touchée par les policiers. Position relayée par le président de la République Emmanuel Macron lui-même dans la presse, qui affirme que « cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre » avant de pointer la responsabilité de la personne blessée dans ce qui est arrivé. Je cite « Elle s'est mise en situation d'aller dans un endroit interdit. Je pense que quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer. On ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci. » Et c'est vraiment l'exemple le plus fort de tout un tas d'autres façons de procéder sur les victimes.
Ouais, et c'est vrai que dès le moment où il y a une violence policière qui fait parler d'elle, il y a une espèce de guerre de communication qui s'enclenche, où des éléments vont être distillés par les policiers, voire portés par des préfets, ou dans certains cas même des procureurs. Et c'est extrêmement violent pour la victime, parce que on a des personnes qui vont se réveiller à l'hôpital. Je me rappelle notamment d'une personne qui avait été bornée dans une manifestation au Puy-en-Velay et qui le lendemain à l'hôpital voyait Emmanuel Macron en déplacement pour féliciter les forces de police sur place. Alors qu'il y avait eu, encore une fois, il ne s'agit pas forcément de condamner au départ, mais en tout cas de dire que ça mériterait qu'il y ait une enquête pour que avant de se prononcer sur la qualité du travail de police, parce que c'est pas normal d'éborner une personne lors d'une manifestation. Et cette guerre de communication, elle est compliquée parce que y a beaucoup de journalistes qui relayent avec assez peu de précautions ce qui vient des policiers. Notamment, je pense à un certain nombre de cas de refus d'obtempérer où le lendemain, dans la presse, on va lire que le policier était en danger. Et puis en fait, après quelques actes d'enquête, on se rend compte que on a tiré sur l'arrière de la voiture, donc en fait, ils n'étaient pas devant et sur le point de se faire rouler dessus et que probablement l'histoire était un peu différente. Ça peut s'expliquer parce qu'il y a quand même une part de plus en plus importante des faits divers dans les... couverture médiatique qui fait qu'un certain nombre de journalistes sont dépendants de leurs sources policières et donc vont finalement vouloir garder de bons rapports avec eux et peu questionner les informations fournies. Et donc en fait les victimes se retrouvent finalement alors qu'elles sont en train de reprendre leurs esprits, que ce soit les familles ou des personnes qui ont été blessées, elles ont vécu une grande violence et elles se retrouvent à voir que leur histoire est racontée d'une certaine manière et d'un certain angle. Ce qui en soi ne devrait pas poser problème, puisqu'on peut imaginer que la justice est indépendante, mais ça pose quand même un contexte, c'est-à-dire que les procureurs, les enquêteurs ou les juges d'instruction après ne sont pas coupés du monde. Donc, en fait, il y aura une version de l'histoire qui va commencer à circuler. Et puis quand cette version est portée par les autorités publiques au plus haut niveau, le président Emmanuel Macron, ministre de l'Intérieur, ça peut aussi rendre les juges un peu prudents sur la manière dont ils vont se saisir de l'affaire. Ça peut ralentir le processus parce qu'il faut se dire que c'est touchy, donc de toute façon ils sont débordés, ils ont d'autres affaires à gérer, ils vont pas aller sur quelque chose où en fait leurs investigations vont contredire la parole du président de la République. Donc tout ça va mal engager l'affaire. Et je crois qu'il y avait un avocat qui me... je me rappelle d'un avocat qui me disait que c'est très important de très vite communiquer pour poser le cadre. Et au contraire, aller dans une... Enfin, et alimenter la guerre de la communication pour apparaître comme une bonne victime, pour donner les éléments le plus tôt possible. Et c'est une guerre qui est très gênante parce que d'une part, ça demande à une victime qui aurait un travail de reconstruction à faire de faire ses relations publiques. Donc de bien présenter, d'aller parler aux médias, de raconter son affaire. Et par ailleurs, ça veut aussi dire qu'il faut être une bonne victime. Et notamment, ça pose la question de... Il y a beaucoup de violences policières, par exemple, sur des délinquants qui ne vont pas être une bonne victime, mais en même temps, ces violences ne sont pas justifiées pour autant. C'est pas parce qu'on commet un acte illégal qu'on doit subir des coups injustifiés. Et en fait, c'est tellement des mauvaises victimes que souvent, ils ne portent pas plainte, et ça ancre dans les pratiques policières aussi des pratiques violentes, parce que sur les mauvaises victimes, ils savent qu'ils risquent pas grand-chose, qu'elles vont pas y aller.
Et ça, tu pointes aussi que c'est un peu une spécificité française que d'avoir à la fois cette impunité dans le fonctionnement et cette absence de formation aussi de la police en général par rapport au maintien de l'ordre et qui renforce l'impunité au moment du faire, avant même qu'il y ait sanction.
C'est sur le maintien de l'ordre, c'est vrai que, alors encore une fois, je parle de l'Europe de l'Ouest, parce qu'évidemment, il y a des pays où on tire à balles réelles sur les manifestants, mais en Europe de l'Ouest, la France, qui a pourtant pendant longtemps été plutôt un modèle avec des stratégies de mise à distance, et il y a eu un décrochage à un moment, alors que d'autres polices vont développer des stratégies axées sur la désescalade, et notamment en Allemagne, c'est obligatoire, ça a été jugé qu'il fallait avoir des pratiques de désescalade. Ou au Royaume-Uni, même pas forcément d'ailleurs sur les manifestations, mais c'est très ancré l'idée d'avoir une police par consentement, et donc d'essayer d'éviter l'usage de la force et d'avoir une bonne image de la police et des bonnes relations police-population. Alors c'est pas toujours un succès, mais en tout cas il y a cette philosophie-là. Là où la police française, on s'est plutôt engagé sur une idée de la fermeté, la répression et ne rien laisser passer, l'impunité zéro pour d'éventuels manifestants violents, ce qui crée des phénomènes de polarisation et de tension qui font que on a une police qui à la fin est plus violente. Et ensuite, sur la question de gérer les violences policières, j'en parle un peu, notamment sur les mécanismes d'enquête. Nous, on est dans un pays où les enquêtes sont menées par des policiers par des institutions qui sont sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Quand au Royaume-Uni ou en Suède ou dans certains États aux États-Unis, il y a des mécanismes de plainte et d'enquête où il y aura des personnalités de la société civile, des juristes, donc des personnalités qui sont extérieures au monde policier, ce qui permet d'éviter ce conflit d'intérêts terrible, parce qu'en fait, si on prend l'IGPN ou encore pire, des autres cellules qui peuvent être chargées des enquêtes pour les violences policières, ils sont dans une schizophrénie totale, puisqu'ils doivent enquêter sur le comportement de leurs collègues. Et encore une fois, il y a des variations, mais globalement, ils ont plus d'empathie pour les policiers. Moi, j'ai fait pas mal d'entretiens avec eux, et c'est tout à fait humain, mais c'est leur métier, ils ont été à leur place, ils se mettent immédiatement du côté du policier. Donc de fait, il y a ce biais-là. Et puis pour les victimes, c'est terrible d'aller porter plainte à l'IGPN et puis de se rendre compte qu'en fait leurs bureaux sont dans le même bâtiment que le commissariat des policiers qui les ont tabassés, et que probablement ils prennent leur café ensemble à la pause. Donc ça instaure pas un climat de confiance. On pourrait envisager des prises en charge des victimes par des institutions un peu extérieures à la police quand il s'agit d'aller porter plainte contre la police.
Du coup, il y a à la fois ce problème lié à l'organisation de la police, enfin, l'absence de formation, le problème de l'image de la victime, et on ajoute à ça le problème des moyens donnés à la justice aujourd'hui. Il y a plein de chiffres qui sont cités justement en comparaison avec d'autres pays où on se dit c'est pas peu, ouais, c'est bref, c'est assez effrayant quand même. J'ai trouvé très très mignon, je sais plus où je l'ai vu, tu mentionnes l'existence d'une commission pour surveiller l'efficacité de la justice. Dans une des notes de page, j'ai trouvé ça très mignon qu'il existe une commission pour regarder quelle était l'efficacité de la justice. C'est grâce à eux qu'on a quelques chiffres qui montrent qu'il y a pas assez de greffes en France, etc. Et au-delà de ce problème, en fait, ce dont tu parles aussi, là, si je me permettre aussi de relire un passage, ce problème de moyens liés à la justice, il s'étale sur différents aspects de la société, mais c'est particulièrement dur pour les victimes puisque c'est une nouvelle violence qui s'ajoute à leur parcours. Cette découverte de la lenteur judiciaire laisse souvent les victimes désabusées. Elles souhaitaient obtenir justice pour tourner la page et tout s'éternise. Une situation qui leur paraît d'autant moins compréhensible vu la rapidité avec laquelle les manifestants accusés de violence ou les actes de petite délinquance peuvent être jugés. Certes, ces affaires sont souvent plus simples, mais on peut aussi voir dans la célérité de la justice une trace des politiques pénales du gouvernement appelant à la fermeté pour certains délits et non pour d'autres. Là aussi, tu cites un contre-exemple. Même les Américains sont plus rapides dans les jugements.
Alors, pas toujours, mais c'est vrai que je cite notamment le cas de Cédric Chouviat, qui est décédé quelques mois avant George Floyd, dans des conditions assez comparables, finalement. Et au moment où les policiers qui ont tué George Floyd ont été condamnés, la famille de Cédric Chouviat était à se battre pour obtenir une reconstitution une reconstitution par la justice des faits. Donc ça a vraiment mis beaucoup de temps. Alors évidemment, George Floyd a créé une onde de choc mondiale, mais Cédric Chouviat, ça avait quand même choqué aussi en France. Et voilà, l'affaire est encore en train de traîner. Ça fait partie des signes que ça va pas très bien, c'est que même les affaires très médiatiques prennent un temps hallucinant. Tout le monde avait été choqué par le tabassage de Michel Zecler. Là, l'instruction vient tout juste d'être finie, donc on a encore quelques mois avant de savoir vers où ça va aller, le temps qu'il y ait des échanges. Donc ça prend un temps fou. Effectivement, il y a la question des moyens de la justice. Il y a tout le conflit d'intérêt de l'enquête, les moyens de la justice, mais la justice, elle manque de moyens pour tout. Et ce qui rend les choses pires sur les violences policières, c'est qu'en fait, il n'y a pas de volontarisme d'aller sur ce type de crimes et délits. Il n'y a pas de politique pénale. On parlait de la différence entre les violences commises par les manifestants ou les dégradations commises par les manifestants et les violences policières. J'ai cherché s'il y avait des instructions, des textes qui émanaient du ministère de la Justice pour dire, pour donner aux procureurs des instructions sur comment enquêter sur les violences policières. Et j'en ai trouvé en 2016, une instruction qui traitait du traitement judiciaire dans les manifestations. Mais il y avait un paragraphe, une toute petite partie sur les violences commises par les forces de l'ordre. Globalement, c'était orienter l'enquête vers les bons services. Ça paraît un peu basique. Et par contre, après, il y avait toute une partie sur les dégradations commises par les manifestants où il fallait faire preuve de fermeté, collecter toutes les preuves, ne rien laisser passer. On sentait qu'il y avait un ton qui était très différent. Et par ailleurs, des instructions sur les délits commis en manifestation, il y en a eu plein, alors que sur le traitement des violences policières, j'en ai pas vu. Et finalement, quand vous êtes un procureur, donc vous appliquez la politique pénale du gouvernement, il n'y a rien qui vous encourage à être volontariste sur les violences policières. Quand vous êtes procureur, vous travaillez au jour le jour avec les policiers, donc en plus vous n'avez pas forcément envie de vous les mettre à dos. Quand vous êtes juge d'instruction, vous avez un peu plus de distance, mais vous avez 140 dossiers par cabinet d'instruction. Vous voyez arriver une enquête qui généralement a été mal commencée par l'IGPN ou les services d'enquête, une enquête un peu bâclée où il faut tout reprendre, vous n'avez pas les moyens. C'est des dossiers où il n'y a pas de détenus en général, parce que il y a parfois des détentions provisoires pour les policiers, mais pendant très peu de temps. Donc en fait, c'est pas du tout un dossier prioritaire, donc il finit au fond de la pile, quoi. Ça, il y a aucun encouragement à aller vite. Et du coup, effectivement, ça fait un deux poids deux mesures qui est assez frappant entre d'un côté une généralisation des comparutions immédiates pour certains types de délits, Et puis de l'autre, des violences policières qui traînent. Je pense au dossier de Zineb Redouane. C'était en décembre 2018 qu'elle est décédée et le dossier est toujours sur le bureau du juge d'instruction.
Et au-delà de cette lenteur, compte les rares fois du coup où il y a quand même procès, tu pointes aussi le peu de sanctions. Et là, est-ce que c'est plutôt politique ou est-ce que c'est systémique? Le fait qu'il y ait si peu de sanctions, c'est un point. Un point de ton bouquin où tu évoques aussi le fait que les jurés ont tendance à outrepasser les préconisations, je sais pas comment on dit, c'est pas préconisations, les requêtes des procureurs.
Ouais. Alors ça, ce sera.
Comment ça s'explique le fait qu'il y ait si peu de sanctions?
Alors il y a plusieurs explications sur les jurés. Alors maintenant ça a un peu changé, mais avant en cour d'assises il y avait des jurés et c'était une analyse qui avait été faite qui montrait que les jurés étaient plutôt plus cléments. Moi j'ai eu qu'un seul dossier que j'ai suivi qui s'est terminé en cours d'assises j'en ai plusieurs en d'un sens. C'est vrai que dans les procès c'est assez frappant et on retrouve un peu cette espèce d'inversion où la victime est coupable et le policier finalement pas tant que ça où la victime est on va chercher tout ce qui ne va pas chez la victime. Le procès d'assises auquel je pense, c'était celui de Laurent Théron, un secrétaire médical qui a été éborgné par une grenade lors d'une manifestation de la loi travail. Et vraiment, il y avait en y allant, on pensait tous que le policier allait être condamné. C'est-à-dire que les images montrent que Laurent, il se baladait les mains dans les poches dans un endroit où il se passait rien. Le policier venait de rejoindre une compagnie de CRS, il n'avait pas encore été formé au maintien de l'ordre. Il avait pris une grenade sans être habilité à l'utiliser et il l'avait lancée par le haut alors que normalement il se roule au sol. Donc rien n'allait, mais alors pendant tout le procès, c'était assez frappant. Il était présenté comme un homme avec un leader pour ses hommes, qui avait envie de protéger ses hommes, un policier exemplaire pratiquement dans toute sa carrière. Et tout un après-midi où les policiers se sont suivis à la barre pour présenter toutes les qualités du policier. Alors ce qui est normal, il se défend, mais c'est vrai que il y avait pas de reconnaissance du fait que quand même sans être formé, il avait décidé de lancer une grenade n'importe comment, une grenade dont on savait déjà qu'elle était susceptible de mutiler. Il y avait déjà eu des cas par le passé. Par contre, il y a eu par exemple une présentation d'une experte psychologique sur Laurent qui s'est pas mal attardée sur le fait que pendant son adolescence, il écoutait de la musique violente type musique punk. Il a été blessé à 47 ans, père de famille. Enfin, c'était assez loin quand même comme moment. Donc du coup, c'était assez étonnant comme différentiel de présentation. Mais voilà, je pense aussi, alors pas aux assises cette fois, mais un jeune livreur Amazon qui s'était fait tabasser pendant le confinement parce qu'il avait fui parce qu'il n'avait pas son attestation et ça avait marqué parce que la vidéo avait tourné. On voit bien les policiers le traîner dans un hall et qui se prend des coups. Et là, pareil, ça avait été quand même. Il a été hystérique. Alors, évidemment, il n'était pas calme parce qu'il était en train de se faire tabasser. C'était compliqué. Et voilà. Donc, il y a plein d'enjeux qui se posent sur peut-être l'empathie que des magistrats peuvent avoir pour un jeune de banlieue qui est livreur Amazon par rapport à celles qu'ils vont avoir pour des policiers. C'est un aspect que je développe pas mal dans le livre. Les policiers, c'est le premier maillon de la justice. Donc en fait, les magistrats et les policiers, ils sont tout le temps en contact. Les magistrats, ils basent tout leur travail sur des PV qui sont faits par des policiers. Donc de fait, ils ont plus de liens qu'avec les gens qu'ils voient, qu'avec un jeune de banlieue qui livre à Amazon. Ça peut être une explication. Après, il y en a d'autres plus factuels, c'est-à-dire que souvent, on va prendre le plus petit niveau de délit, le crime, on va engager sur des faibles. On va souvent la circonstance aggravante de par personne dépositaire de l'autorité publique n'est pas mise en avant, ou le fait que ce soit une agression qui soit potentiellement raciste, s'il n'y a pas de propos racistes, ça va être mis de côté, donc ça affaiblit la peine par rapport à ce que ça pouvait être. Et puis quelque chose qui joue très largement, je pense, c'est j'en suis absolument certaine, c'est le temps qui se passe entre l'audience et les faits. C'est-à-dire que autant comparution immédiate, bah, les peines sont très sévères parce que les faits sont très frais, ça vient de se passer. Alors que quand le procès il intervient 4, 5, 6 ans après, bah, le policier il a eu le temps de continuer sa carrière. Il y a eu assez peu de sanctions administratives, c'est tout un autre sujet sur les sanctions internes dans la police, quasiment inexistantes pour ces faits-là. Et puis voilà, il aura eu le temps de montrer que finalement c'est un bon policier, il a avancé. Il y a eu un cas où bah, c'était un policier qui avait éborgné un lycéen pendant une manifestation. Il avait été condamné en première instance et puis en appel, l'avocat avait bien montré que il avait été présent sur les attentats du Bataclan, qu'il avait bien réagi, enfin qu'il présentait sur tout ce qu'il avait pu faire de mieux. Donc tout ça, ça vient un peu influencer sur, on va peut-être pas trop le sanctionner parce qu'après il a fait des choses bien. Donc ça fait aussi baisser les peines. Et un enjeu qui est assez enfin, qui est assez problématique, parce que moi, je suis pas une grande fanatique de mettre les gens en prison pour mettre les gens en prison. Donc, finalement, qu'il y ait du sursis, pourquoi pas. Mais quelque chose qui souvent est un peu important pour les victimes, c'est le fait que le policier retourne pas sur la voie publique, retourne pas armé sur la voie publique. Et souvent, bah, et les magistrats ont généralement la possibilité de prononcer soit une interdiction d'exercer, soit une interdiction de port d'armes, mais ils le font assez rarement. Et souvent, ils ne mettent pas non plus d'inscription au casier judiciaire. Voilà, donc tout ça permet aux policiers de revenir après directement travailler pratiquement dans les mêmes conditions. Et c'est aussi quelque chose qui est assez mal pris par les victimes, parce qu'elles ont l'impression qu'en en fait, il n'y a pas de conséquences.
Et pour achever le tableau catastrophique, il y a aussi le problème de l'indemnisation des victimes et le problème du coût de la justice, puisque... il y a les frais d'avocat. Enfin, là aussi, tu en parles très bien de manière transversale à toutes les étapes. Il y a aussi très peu d'indemnisation. Donc, heureusement, ça se termine quand même sur des propositions concrètes. Vous vous dites, non, mais ça peut changer. Tu disais que dans d'autres pays européens, ça se passait différemment et que les plaintes aboutissent un peu mieux. Enfin, il y a de l'espoir ailleurs.
Alors, ouais. Bon, après, encore une fois, il n'y a pas de pays absolument exemplaire. Mais il y a des pays où ça se passe mieux, où on peut mieux prendre ça en compte. Là où il y a de l'espoir, c'est qu'en fait, à un moment, il suffit d'une volonté politique pour que ça change. Il y a pas mal de choses qu'on peut un peu mettre en parallèle sur la manière dont les violences sexistes et sexuelles sont traitées, où pendant très longtemps, bah, les VSS, la victime était culpabilisée. Alors, je dis pas que c'est bien traité maintenant. Hein. C'est quelque chose, ça prend énormément de temps. Mais en tout cas, de ce côté-là, il y a de plus en plus une politique pénale qui fait que les procureurs, ils savent qu'ils doivent traiter ces dossiers, que à l'ENM, à l'École nationale de la magistrature, il y a des formations spécifiques sur ce sujet. Donc ça va mettre des années à bouger, mais en tout cas, ça peut bouger. On pourrait imaginer la même chose sur les violences policières. Il y a plein de mesures à prendre sur l'indépendance des enquêteurs, le dépaysement des affaires pour pas que les magistrats qui la traitent soient ceux qui travaillent avec les policiers qui sont mis en cause. Et puis après, bah, l'enjeu principal, c'est aussi de se poser la question de pourquoi il y a autant de violences policières. Et c'est vrai que si la justice les traitait bien, s'il y avait de plus en plus de policiers condamnés, cette question elle deviendrait assez inévitable, parce qu'en fait. Enfin, je crois que c'était un policier qui me disait, hein, il y a quelques fous furieux dans la profession, voilà, qui vont faire n'importe quoi qu'il arrive. Mais pour beaucoup d'auteurs, c'est aussi parce qu'on les met dans une position où ça devient difficile de pratiquer le métier sans commettre des violences policières. On donne des armes qui sont susceptibles de mutiler, on forme mal, on met des objectifs qui sont pas réalistes ou qui mènent forcément à des escalades de tensions ou des violences. Il y a une politique du chiffre qui fait qu'en fait les policiers ils sont évalués par rapport au nombre d'interpellés qu'ils ramènent, ce qui n'a pas beaucoup de sens d'ailleurs sur les questions de sécurité publique. Hein. Il y a beaucoup de contrôle d'identité, enfin il y a en tout cas pas mal de contrôle d'identité où le délit il est créé par le contrôle alors qu'il se passait strictement rien, mais on va finir avec un outrage aux rébellions alors qu'il n'y avait rien au départ. Et donc en fait si on commençait à condamner les violences policières, ça pourrait plus forcément tenir puisque les policiers s'interrogeraient sur la manière dont on leur fait exercer leur métier.
Et c'est vrai, ils sont couverts en quelque sorte
Bah oui, et en fait aujourd'hui il y a tellement un blocage et justement un refus de parler du sujet que la justice ça pourrait être peut-être le moyen d'avancer sur cette question là aujourd'hui le ministère de l'Intérieur ne veut pas ou en tout cas difficilement remettre en cause la manière de faire du maintien de l'ordre, la manière de gérer la sécurité dans les quartiers populaires ou la manière dont on va envoyer la police contre les personnes migrantes. Mais si les policiers étaient condamnés pour leurs actes illégaux, bah, ils accepteraient plus forcément de travailler dans ces conditions-là.
Merci Anne-Sophie.